Ça marche ? Ok. Bonjour à tout le monde, donc. Écoutez, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. J'espère que cet après-midi sera fructueuse et riche en réflexions autour de cette problématique qui me paraît effectivement, moi, très importante et sur laquelle j'essaye de travailler depuis quelques années. Donc le sujet que je vais évoquer avec vous pendant le temps qui m'est imparti, donc comme vient de l'introduire Asia, c'est vrai que c'est un sujet qui est largement impensé, en tout cas en France pour l'instant, et qui est toujours un petit peu difficile à aborder. Puisque lorsqu'on essaie de penser la domination et les systèmes de domination, on a tendance à se tourner du côté des dominés, et bien entendu, on a tendance à ne pas regarder les dominants et les privilégiés des systèmes d'oppression, quels qu'ils soient, que ce soit le sexisme, le racisme, les systèmes de classe, l'hétérosexisme, etc. Donc l'idée de mon intervention et de ce que je vais essayer de vous raconter, c'est d'inverser ce processus, qui consiste à regarder uniquement les victimes, en l'occurrence les victimes du racisme, pour nous centrer sur les bénéficiaires de ce système et cette question des privilèges. Alors, mon intervention est beaucoup fondée sur des travaux et des références nord-américaines, états-uniennes principalement, puisque aux États-Unis, c'est de là que c'est parti. L'ordre racial blanc-noir est tellement évident on sait naturellement que ça pose question et qu'il faut modifier ce système. En France, la pensée universaliste, républicaine, etc., nous a inculqué le fait que nous, on est au-dessus de tout ça en France, et donc on ne le voit pas. Et cet universalisme, il a été plus qu'un masque, il a également servi de cadre d'organisation à un système oppressif. Et c'est pour ça qu'il y a nécessité à réfléchir à cet universel. Alors, donc, en quoi un regard qui va questionner cet universel blanc offre donc de nouvelles perspectives ? C'est, voilà, ça va être un petit peu tout mon propos, sachant que, comme je vous le disais tout à l'heure, dans la situation d'oppression, plutôt que de regarder uniquement les dominés, on va essayer de regarder dans quelle mesure l'aliénation peut exister du côté des personnes dominantes. Et pour moi, une des références importantes sur ces questions, c'est un texte d'Albert Memmi qui a été un petit peu oublié. On a beaucoup mis en avant, lu et utilisé son ouvrage sur le portrait du colonisé, et on a oublié qu'il avait écrit en parallèle le portrait du colonisateur. Et il montre très bien cette situation d'aliénation du côté des dominants, colonisateurs, et combien tout ça se construit en interaction permanente entre groupes dominants et dominés. Alors, deux temps, je vais essayer de le tenir, promis Myriam, mais parce que ça me paraît important, je vais d'abord essayer de revenir rapidement sur les processus de racialisation et le concept de race en lui-même. En tout cas dans la manière dont moi je le pense et la manière dont je l'utilise, et ensuite une autre partie sur la question de la blanchité et des privilèges blancs. Donc, ce premier temps autour de ce concept de race, alors évidemment, parler de race, sans guillemets, puisque je n'en utilise plus, ça peut apparaître comme quelque chose de dangereux a priori. Puisque l'idée de race naturalisée, bien entendu, elle est associée à l'exploitation et à des tristes pages de l'histoire contemporaine. Donc elle fonctionne effectivement comme un repoussoir, aussi bien dans les sciences sociales, dans le monde académique, que dans les espaces militants, ou même dans le sens commun. Ceci dit, est-ce qu'il suffit de gommer un mot pour en faire disparaître sa réalité effective et concrète ? Bien entendu, vous savez bien que non. Autrement dit, un racisme ou un antiracisme sans race, est-ce qu'il est possible ? Je vous pose la question. En tout cas, moi, j'y ai répondu. En choisissant d'utiliser ce concept et sans guillemets, puisque beaucoup, beaucoup de personnes l'utilisent encore avec des guillemets aujourd'hui. Alors, ça paraît toujours inutile de rappeler l'absence de corrélation scientifique entre caractéristiques physiques des personnes et évidemment leurs attributs, etc. Sauf que ça, je préfère toujours le rappeler, hein, même si c'est une évidence, quand je parle de race, bien entendu, cette idée n'a aucun caractère biologique, bien entendu. C'est une catégorie qui est socialement construite, au même titre que le genre, hein, qui est changeante selon l'époque et selon les lieux. Et on sait, à travers un certain nombre de travaux, aux États-Unis, encore une fois, hein, toutes les références sont états-uniennes. Il n'existe, enfin, il y a que ça en magasin pour l'instant. Donc, on sait à partir d'un certain nombre de travaux que différents groupes ont fait l'objet de racialisation, c'est-à-dire qu'ils ont été perçus par la société dominante de l'époque comme appartenant à une race différente. Et ça a été, par exemple, le cas des Irlandais aux États-Unis au XIXe siècle. C'est intéressant de ce point de vue, hein, de voir comment un groupe, voilà, pour diverses raisons, va être catégorisé en fonction donc d'une race réelle ou supposée. Et ce qui est intéressant dans les travaux sur justement les Irlandais aux États-Unis, c'est que un des auteurs qui a travaillé la question explique comment les Irlandais ont dû se livrer à un travail de différenciation symbolique vis-à-vis du groupe des Noirs pour faire ressortir leur propre blanchité et correspondre à la norme du WASP, hein, White Anglo-Saxon Protestant aux États-Unis. Alors, donc tout ça pour dire que les divisions raciales, elles sont bien sûr tributaires des histoires politiques des pays, chaque pays fabriquant une conception de la race qui lui est propre. D'où le fait qu'en France, cette idée de race, elle va être moins centrée sur la différence de couleur, quoique, c'est à réfléchir, c'est en questionnement, c'est des choses dont on pourrait débattre. Comme aux États-Unis, hein, où là, la division noir-blanc... mais voilà, toujours est-il qu'en France, donc moins la différence de couleur que la différence des origines. En tout cas, c'est ce qu'on met en avant. Toujours est-il que si ce nouveau racisme, hein, bon, je ne rentre pas dans les détails, mais enfin, ce racisme culturaliste qui s'est installé en France à partir de la deuxième moitié du XXe siècle ne met pas en avant une supériorité biologique, de certaines races sur d'autres, mais des différences culturelles entre les groupes, dits ethniques. Tout ça, ça apparaît plus soft, mais dans la réalité, les dégâts sont aussi considérables que si on parlait de race biologique, selon moi. En tout cas, hein, voilà, tour de passe-passe, on passe de la race à l'ethnie, de la biologie à la culture, mais voilà, concrètement, pour les personnes victimes de racisme, on est toujours dans le renvoi à des caractéristiques naturalisées, que ce soit la langue, l'origine, la religion, etc., etc. Et on va avoir tendance à homogénéiser une catégorie de personnes, voilà, en fonction de ces caractéristiques. Alors, tout ça, je passe. Juste parce que j'aime beaucoup la citer, et pour moi, c'est une référence incontournable, et je vous invite à lire ses travaux si vous ne les connaissez pas déjà, mais je pense que un certain nombre d'entre vous la connaissent déjà. Je fais référence à Colette Guillaumin. Elle a écrit, il y a déjà pas mal d'années, un petit bouquin qui s'appelle « L'idéologie raciste », dont je vous conseille vraiment la lecture. Et il me semble qu'elle a fait, dans ce bouquin, elle fait un état des lieux de cette question qui me paraît, moi, extrêmement intéressante. Elle écrit, donc, Colette Guillaumin, que « race imaginaire comme race réelle » jouent le même rôle dans le processus social et sont donc identiques eu égard à ce fonctionnement. Le problème politique... ça c'est moi qui dis rajoute politique. Elle écrit le problème sociologique est précisément là. Et moi, je rajoute que le problème politique est aussi précisément là. Donc, ce terme de race, à mon sens, doit être entendu dans son sens le plus large, hein, c'est-à-dire qu'il englobe à la fois la couleur et une constellation de marqueurs, souvent visibles, qui sont censés représenter donc cette appartenance ethnique, l'origine nationale, la religion, la culture, etc., etc. Alors, lever les tabous sur cette idée de race, pourquoi c'est important ? Et pourquoi c'est important à la fois scientifiquement mais aussi politiquement, c'est que c'est ouvrir la possibilité de travailler sur une analyse systémique des inégalités. Et c'est pour ça que c'est important, hein, c'est pas uniquement de la simple rhétorique, c'est donc permettre que des données puissent exister pour rendre compte des discriminations et des inégalités racistes. Ça veut dire donc pouvoir se doter d'instruments de mesure pour questionner l'accès au travail, l'accès au logement, l'accès aux loisirs, l'accès à l'école, etc., etc. Et je trouve très intéressant la manière dont on traite la question... Slowly ? Ah, oh, ok. Alors... Donc, la question donc, des discriminations, qui fait l'objet depuis quelques années en France, hein, de politiques publiques et d'un certain nombre de dispositifs, hein, la lutte contre les discriminations, qu'on voit aujourd'hui glisser vers ce qu'on appelle la promotion de la diversité, qui a le don de particulièrement m'énerver, mais ça aussi, ça pourra faire partie des sujets dont on peut discuter. En tout cas, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que quand on remarque la manière dont on traite politiquement la question, au niveau institutionnel, j'entends, hein, la question des discriminations, c'est qu'on a pris soin de la séparer de la lutte contre le racisme. Hein. On a bien distingué les choses et on continue à regarder le racisme comme une affaire individuelle qu'il faut réparer. Donc, on doit rééduquer la personne, puisque ce sont des actes de méchanceté. Il faut simplement donc rééduquer les personnes. Et vraiment, quand je dis ça, il m'est arrivé d'assister à des colloques où, à plusieurs reprises, j'ai pu entendre le fait que, idée bien pratique, vous allez voir pourquoi, qu'on peut discriminer sans être raciste. Puisqu'on a développé depuis quelques années l'idée de discrimination indirecte, etc. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, je vous disais tout à l'heure qu'il existerait un racisme sans race. Là, ça voudrait dire qu'il existe un racisme sans raciste. Et je trouve que là aussi, c'est... Ouais, mais ça vous fait rire, mais c'est... je vous promets que c'est une réalité. Je l'ai vraiment entendu à plusieurs reprises. C'est dans le sens où il peut effectivement exister un certain nombre de discriminations raciales sans que soit mobilisée forcément de la haine raciste classique telle qu'on l'entend. Et dans ce cas-là, il va s'agir de discriminations inconscientes. Et c'est vrai qu'il existe un certain nombre de travaux en psychologie et en psychologie sociale, notamment, qui développent ces questions. Les psychologues aux États-Unis appellent ça le racisme aversif. Et ils ont beaucoup travaillé depuis les années 70 sur ce qu'ils appellent un phénomène qui est intéressant, en tout cas, parce que ça peut nous aider à comprendre un certain nombre de situations, c'est ce qu'ils appellent l'activation automatique des stéréotypes. C'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes dans certaines situations... Ah, je vais trop vite. Je suis désolée. Donc, dans un certain nombre de situations, des personnes qui ne se disent pas racistes, ne se sentent pas racistes de manière consciente, peuvent, donc, dans un certain nombre de situations concrètes, activer automatiquement des stéréotypes, sans forcément y adhérer a priori et de manière consciente. Voilà, donc je trouve que ça, c'est un processus qui est intéressant à avoir en tête pour comprendre un certain nombre de situations. Toujours est-il qu'en France, la tendance commune, c'est de considérer le racisme comme un équivalent de la xénophobie, c'est-à-dire donc la peur de l'autre, de l'étranger, celui ou celle que je ne connais pas. Et donc tout ça disparaîtrait si on arrivait à se connaître un peu plus. Or, si la xénophobie est une composante du racisme, bien évidemment, elle ne s'y réduit pas, puisque le racisme, il est aussi institutionnel. Et au-delà, on est bien au-delà d'une question uniquement morale, on est bien sur une question politique. Ça va, là, pour les traducteurs et traductrices ? Ok. Alors, deuxième temps donc, de mon exposé, la question donc, de la blanchité pour arriver à la question des privilèges. Colette Guillaumin, toujours elle, écrivait donc en 78 « On dit des Noirs qu'ils sont noirs par rapport aux Blancs, mais les Blancs sont tout court. Il n'est pas sûr d'ailleurs que les Blancs soient d'une quelconque couleur. » Tout est dit. Enfin, en tout cas, il me semble qu'elle dit déjà là beaucoup de choses. Puisque, en quoi c'est intéressant cette phrase, c'est que, jusque-là, encore une fois, c'est ce que je vous disais en introduction, on regarde les victimes, donc on pense que la question de la race et du racisme ne concerne que les personnes, entre guillemets, là du coup je vais mettre des guillemets non blanches, parce que la terminologie ne me plaît pas du tout, mais bon, j'ai rien d'autre au niveau des concepts pour l'instant, donc on patine un peu sur les mots. Donc que seules les minorités non blanches auraient quelque chose à voir avec la race. Et c'est là qu'on est dans ce fameux renversement de perspective. Hein. Donc si on parle de blanchité, vous rencontrerez dans des travaux ou dans des écrits, certains auteurs parlent plutôt de blanchitude, d'autres de blancheur. Moi, je fais le choix de parler de blanchité parce que dans le groupe dont je fais partie, on a choisi d'utiliser le terme de blanchité parce que le mot de blanchitude rappelait le concept de négritude et du coup, ça ne nous paraissait pas pertinent de faire un parallèle. Je vous rappelle que le concept de négritude a été développé par des, notamment Aimé Césaire, hein, « Je suis nègre et fier d'être nègre », etc. Donc l'idée de négritude renvoie à, à quelque chose de, qui est de l'ordre de la résistance et de la revendication. Voilà, de la négritude, là, ça, c'est, on n'est pas du tout dans ce cas-là, hein. Il est pas, on n'est pas du tout dans la revendication d'une blanchité ou d'une blanchitude quelconque. C'est pour ça que donc, voilà, le terme de blanchité nous paraissait plus pertinent. Donc voilà, et pour juste terminer là-dessus, aussi longtemps que le groupe des Blancs ne seront pas nommés et perçus comme un groupe racial au même titre que tous les autres groupes, alors le Blanc sera la norme, sera le standard et représentera l'universel. Et les autres groupes, bien entendu, d'éternelles minorités qui renvoient aux particuliers, aux spécifiques, etc., etc. Alors, grande question, faut-il parler de la peau blanche et de ses privilèges associés ? Est-ce que c'est une variable véritablement pertinente pour penser la question de la domination ? Et comment les personnes blanches peuvent-elles se dire blanc et blanche ? Parce que, comme je le disais pour l'idée de négritude, hein, alors que pour certains groupes minoritaires, cette affirmation de type identitaire, elle peut permettre une certaine émancipation, c'est une forme de lutte, de résistance, etc., contre ce que Colette Guillaumin définit comme l'essence hein, du rapport raciste, c'est-à-dire le fait pour hein, ce qui représente la norme et l'universel, le fait de ne pas être catégorisé ou nommé, parce qu'elle l'écrit encore brillamment. Le majoritaire ne se nomme pas, il est défini en creux par ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire noir, jaune, juif, femme, arabe, homosexuel, handicapé, etc. etc. Hein, on pourrait décliner. Et dernière citation de Colette Guillaumin, mais j'aime tellement, pour moi c'est vraiment un plaisir de la citer à chaque fois. Le groupe adulte blanc de sexe mâle catholique, de classe bourgeoise, saine d'esprit et de mœurs, et donc cette catégorie qui ne se définit pas comme telle et fait silence sur soi-même. Elle impose aux autres, cependant, à travers la langue, sa définition comme norme, dans une sorte d'innocence première croyant que les choses sont ce qu'elles sont. Alors donc, comment les blancs et les blanches peuvent-elles et ils se dire blancs et blanches ? C'est assez déplaisant à entendre en règle générale, hein, puisqu'on a d'un côté l'infinie diversité du groupe des personnes blanches face à la prétendue homogénéité des groupes minoritaires ou minorisés. Alors, bien entendu, là encore, pas de dimension moralisante hein, dans cette approche. Et pourtant, là aussi, hein, les écrits états-uniens, et notamment Bell Hooks, une chercheuse féministe noire, avait souligné à quel point les gens étaient à la fois et surpris et furieux dès lors qu'on prêtait attention à la blanchité et dès lors que les personnes blanches étaient vues comme des personnes blanches, par des minoritaires évidemment. Hein. Alors, donc effectivement, autour de ça, c'est un chantier hein, sur lequel on a à réfléchir collectivement, hein, quels que soient les espaces dans lesquels on se trouve, pour caractériser un peu mieux. Hein. Moi, là, je suis au début de la réflexion et ce qui se passe aux États-Unis n'est pas valable forcément, évidemment, pour ce qui se passe en France. En tout cas, il me semble que toute cette réflexion-là, elle peut nous servir à penser les choses ici et maintenant. Et en tout cas, dans le contexte français, je trouve qu'il faut réfléchir au processus et au rôle joué par le processus d'assimilation hein, des immigrés hein, dans cette histoire, dans la mesure où l'on sait que, ici comme ailleurs, il existe toujours des bons et des mauvais immigrés, les intégrables et les inintégrables. Voilà, en tout cas, je pense que cette idée de blanchité, elle peut être opérationnelle, donc avec toute la fluidité qui est nécessaire pour essayer de l'utiliser hein, comme catégorie de pensée et d'analyse, et pas forcément comme quelque chose de descriptif. Parce qu'elle peut nous permettre de saisir, enfin, de briser un certain nombre de tabous et de réfléchir aux mots qu'on utilise et à rompre avec la frilosité dont on peut faire preuve en France dès qu'il est question de racisme et de rapport de pouvoir. D'autant plus lorsque ce débat il est imposé par les opprimés et les minoritaires. Alors, cette blanchité, elle s'incarne à la fois dans un processus qui s'appelle l'aveuglement à la couleur, color blindness, ou aveuglement donc à la race, ce qui signifierait que la race ou la couleur n'ont aucune importance, puisqu'il n'y a pas de fondement biologique. Or, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que loin d'être une façon de se libérer du racisme, cet aveuglement à la race ou à la couleur devient au contraire une arme qui est utilisée par le groupe dominant pour invisibiliser les privilèges et protéger et pérenniser une situation une position de privilégié. Donc le premier privilège des Blancs, c'est de ne pas avoir à penser à la race. Et je vous cite une anecdote qui est citée par un chercheur nord-américain, encore une fois. Il s'agit de Michael Kimmel, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, et qui raconte qu'il participait à un groupe de discussion féministe. Et lors de la discussion, il est question de sororité hein, entre les femmes. Et au cours de la discussion, une femme noire demande à une femme blanche « Qu'est-ce que tu vois le matin quand tu te regardes dans un miroir ?» Et la femme blanche répond bah, « Je vois une femme. » Ce à quoi la femme noire répond bah, « Moi, je vois une femme noire. » Le problème, encore une fois, il est précisément là. Et le privilège, il est précisément là, hein, celui de ne pas avoir à penser à la race. Alors, à un niveau institutionnel, on va le retrouver, par exemple, dans ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, hein, dans le débat autour des statistiques ethniques, alors que l'exigence de non-discrimination, elle imposerait une obligation justement de tenir compte d'un certain nombre de différences liées à la race, à la couleur, etc. Donc la visibilité de celle-ci. Donc plutôt que cette espèce d'ignorance plus ou moins délibérée dans laquelle on est en France à ce point de vue, hein, de ce point de vue du fait de refuser de catégoriser, de stigmatiser, nous dit-on, encore plus les groupes minoritaires, du coup, il devient impossible de savoir avec certitude qu'il existe des inégalités et des injustices raciales. Aux États-Unis, on sait très précisément que, par exemple, un enfant noir a 3 fois plus de chances qu'un enfant blanc d'être malade du saturnisme. Voilà, on ne veut pas des statistiques dites ethniques pour compter. Ça peu nous importe. Par contre, dès qu'il est question des inégalités, ça c'est important d'avoir des chiffres là-dessus. Et c'est autour de cette revendication-là que c'est important. Alors, dernier temps de mon exposé, donc la question des privilèges blancs. Puisque donc toute une partie de ces études sur la blanchité porte donc sur cette idée de privilège, c'est-à-dire sur la différence de pouvoir entre les blancs et les non-blancs, et donc sur les avantages relatifs que les blancs ont pris l'habitude de considérer comme normaux ou allant de soi. Alors, je me fonde là beaucoup sur le travail réalisé par Peggy McIntosh, hein, chercheuse féministe et antiraciste, blanche. Et elle définit les privilèges de la peau blanche, white skin privilege, comme un pack invisible chargé de biens immérités sur lesquels elle peut compter dans sa vie quotidienne, mais au sujet desquels elle était supposée demeurer inconsciente. Voilà, elle décrit ça comme une espèce de sac à dos, où elle peut aller puiser en fonction des situations et des contextes, pour faire jouer sa position de privilégiée. Alors, interroger ces privilèges blancs, très souvent, on m'a renvoyé l'idée que ça soit dans la sphère académique ou militante, une question qui était mal posée, et dans la sphère militante, beaucoup comme une question mal posée, parce qu'elle diviserait les opprimés au lieu de les rassembler. Ça, bien entendu, ça renvoie à tout l'héritage marxiste de la société française, etc., qui identifie la classe plutôt que la race ou le sexe ou d'autres variables comme étant un déterminant essentiel des expériences des individus. Alors, l'idée donc de ces privilèges liés à une position de blanc ou de blanche, c'est que donc toutes ces personnes bénéficieraient d'un certain nombre d'avantages relatifs liés donc à leur condition de personne blanche, mais bien évidemment l'ampleur et le degré de ces privilèges vont changer en fonction d'autres variables comme le sexe, la classe, le statut socio-économique, l'orientation sexuelle, l'âge, la capacité physique, etc., etc. C'est pour ça que l'idée d'articulation des différents systèmes d'oppression, elle est évidemment fondamentale. Là, aujourd'hui, je ne parle que de la question de la race, mais on a essayé de travailler à Toulouse avec notamment un groupe sur l'articulation et l'intersection des différentes forme à la fois et d'oppression et de privilège. Voilà, peut-être que je reviendrai un jour aux UH pour vous en parler et pour animer ce que je fais par ailleurs dans d'autres lieux, des ateliers de conscientisation sur tout ça. Mais là aussi, on pourra en discuter éventuellement dans le débat, parce que là, je ne vais jamais avoir le temps. Alors, juste... comment définir ce concept de privilège ? L'idée, le terme en lui-même, il n'est pas très satisfaisant. Moi-même, il y a des fois, je patine un peu, je ne suis pas très, très à l'aise avec ça, je ne suis pas très confortable, mais enfin, bon, faute de mieux, encore une fois, je continue à l'utiliser. Mais donc, pour le caractériser plus précisément, l'idée de privilège, c'est que c'est un avantage particulier, donc attribué de manière individuelle à chaque personne. Deuxièmement, c'est quelque chose qui est accordé et pas gagné grâce à un effort individuel. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça vient tordre le cou au mythe de la méritocratie, hein, qui est très développé et dont on nous rebat les oreilles en permanence, comme s'il n'y avait aucun déterminisme, quel qu'il soit. Troisièmement, le privilège, il est exercé au profit de certains et de certaines, donc forcément au détriment des autres. Et enfin, donc, ce statut de privilégié... Pardon. Excusez-moi, je fais des signes avec les traducteurs au fond, c'est pour ça que vous me voyez des fois grimacer. Ils me disent d'aller plus lentement. Donc, enfin, ce statut de privilégié, il est souvent inconscient. Donc, ce privilège social, c'est donc une faveur. Une faveur, un avantage, une immunité, voire même une impunité. Et juste, je fais une petite parenthèse avec l'actualité, mais quand même, l'affaire DSK, de ce point de vue, je trouve qu'on pourrait s'amuser à regarder comment tout ça se croise et s'articule. Et je trouve que, que c'est extrêmement intéressant comment, depuis le retournement de la situation, à quel point l'homme... Parce que ma réflexion est venue du fait que j'ai entendu un journaliste, je ne sais plus sur quelle radio, qui disait que DSK était blanchi. Et là, waouh, je me suis dit, super. C'est-à-dire que... Et en parallèle, se développait tout le discours où, et je joue sur les mots, on commençait à noircir la femme noire. Mais noircir dans le sens qu'on pourrait trouver dans le petit Robert, ou quelque chose qu'on noircit, ben, c'est-à-dire que ben, voilà, on le dénigre, on le salit, on le rend... voilà. Et que vraiment, je trouve que là, la situation, c'est plus on noircit la femme noire, plus l'homme blanc s'en ressort blanchi. Voilà, je referme la parenthèse sur l'actualité. Voilà, donc c'était pour illustrer l'idée d'impunité qu'on va pouvoir accorder à un groupe. Donc, en insistant pour que le racisme ne soit pas réduit à un problème qui concerne uniquement les minorités raciales, les Noirs, les Arabes, etc., 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 mais soit aussi une question blanche, donc il s'agit de montrer comment toutes sortes de relations sociales, même celles qui semblent neutres, sont en fait racialisées. Donc, c'est à la fois dans des facteurs matériels, mais aussi plus culturels, que tout ça donc va s'incarner et que vont s'enraciner ces privilèges des Blancs. La dimension matérielle, on va la retrouver dans la distribution des biens, des ressources, dans la division du travail, dans les politiques d'immigration. Et puis, les facteurs davantage culturels, symboliques, on va les retrouver dans un certain nombre de comportements, dans des modèles culturels, dans des modèles de pensée et surtout dans le langage. Puisque donc ça va être ce sont les caractéristiques du groupe privilégié qui vont définir la norme. Et de la même manière que, par exemple, c'est la norme masculine qui définit, j'en sais rien, par exemple, la norme au niveau sportif, voilà, par exemple. J'ai été frappée en lisant, mais vraiment, ça a fait tilt, et ça a fait tilt chaque fois que j'en ai parlé dans des cours ou dans des ateliers que j'ai pu mener, comment la norme de la couleur chair qui est censée... voilà. Si vous allez acheter des pansements ou des sous-vêtements, voilà, la couleur chair correspond à une certaine couleur qui n'est pas forcément la couleur de peau de toutes les personnes qui vont utiliser les pansements ou les sous-vêtements en question. En général, ça fait toujours tilt, cet exemple-là. Alors, bien que les titulaires des privilèges soient des personnes individuelles, le sac à dos invisible que décrit Peggy McIntosh, multiplié par le nombre de personnes qui en bénéficient, va en faire un phénomène social qui, bien sûr, va en faire sa force et sa nature donc systémique. Voilà. Alors, on est bien d'accord, je le répète, c'est important. L'idée de privilège, ça reste une affaire donc, qui est relative quand on compare les situations. Donc, si les blancs du groupe majoritaire sont privilégiés, donc au détriment des minoritaires, même les blancs les plus pauvres ou les blancs SDF, à condition égale, on va dire, peuvent être avantagés du fait de leur appartenance au groupe majoritaire. Hein. Et cette réflexion-là, elle me paraît vraiment importante parce que je le cite toujours parce que j'ai lu une interview de Daniel Ben Saïd, le philosophe de la LCR, enfin, voilà, qui est décédé aujourd'hui, mais bon, voilà, qui écrivait un long entretien et enfin qui un long entretien et il disait qu'on ne peut pas dire aux SDF qui habitent Saint-Denis dans le 93 qu'ils bénéficient du système d'oppression raciale. Il n'est plus là pour répondre. Hein. Il n'empêche que je pense que beaucoup de personnes sont d'accord avec lui. Et je pense que tout l'intérêt de cette approche-là, ben c'est de dire que, eh bien, malgré tout, la personne SDF blanche, franco-française, qui habite Saint-Denis dans le 93, dans des circonstances particulières, peut tirer avantage des discriminations qui s'exercent sur la personne SDF, noire, arabe, asiatique, etc., etc., etc. Voilà. Alors, est-ce qu'il est temps pour moi de conclure, c'est ça ? Hein ? Tranquillement ? Alors, ah, c'est bon. Ah, très bien. OK. Alors, je vais juste, alors à ce moment-là, vous donner quelques éléments sur ces fameux ateliers de conscientisation que j'ai pu mener, puisque donc dans un groupe qu'on a créé, qui s'appelait, puisqu'il n'existe plus à ce jour, un groupe racé genre qu'on a créé en 2003 à Toulouse, quand on a découvert ces travaux états-uniens, moi j'ai été particulièrement bouleversée par cette approche, etc. Donc, waouh, on avait vraiment très envie, à la fois à un niveau académique, mais aussi et surtout militant, de pouvoir travailler cette question. Donc on a développé des ateliers de conscientisation dans une perspective et antiraciste et antisexiste, voilà, pour à partir de cette idée de privilège. Et donc, toujours en s'inspirant de Peggy McIntosh et avec son accord, on a travaillé sur un certain nombre d'énoncés révélant ces fameux privilèges des Blancs. Sauf que ce qui était compliqué pour nous, puisque nous étions un groupe de femmes non blanche. on a un peu perverti l'approche qu'utilisait Peggy McIntosh, puisqu'elle réfléchissait en tant que blanche à ses privilèges. Donc nous, on a eu un peu de mal hein, au départ. Hein, voilà. Mais on a quand même essayé de travailler la question. Et voilà. Et on en est arrivé à mettre en place comme ça un certain nombre d'énoncés et de privilèges liés au sexe et à la race. Et je vous en cite juste deux ou trois. Un, par exemple, parce que vraiment, c'était du vécu pour nous toutes. Ça faisait vraiment écho. Dans les commerces, si je suis surveillée ou contrôlée par un agent de la sécurité, je suis sûre que ce n'est pas en raison de ma race. Ça, c'était quelque chose que, enfin, voilà, qui parlait à beaucoup d'entre nous. Autre exemple... Donc l'idée, c'est de dénoncer des privilèges, hein, évidemment. Quand je cherche un logement, que j'ai l'argent et les garanties nécessaires, je peux être sûre ou sûre de pouvoir louer ou acheter dans n'importe quel quartier. Et je vous promets le nombre de fois où j'ai cherché des apparts et où je me suis dit, ben là, j'ai pas eu l'appart parce que j'ai une tête d'arabe. Il est certain qu'une personne qui n'a pas une tête d'arabe ou autre, groupe minoritaire bien entendu, voilà, ne se posera jamais la question en ces termes. Hein. Et même chose pour les contrôles dans les espaces publics, quels qu'ils soient. Alors, et donc, ce que je voulais vous dire un petit peu, donc, c'était vous dire quelques mots sur comment ça se passe dans ces ateliers en question. Donc, parce que ça me paraît très intéressant à réfléchir, et là aussi, il y a peut-être des choses qu'on pourra reprendre dans le temps du débat. Donc, pour les personnes non blanches, ces ateliers, en général, c'est souvent la possibilité de dire enfin un certain nombre de ressentis. Et ça, on en avait déjà discuté un peu avec Myriam, mais ce que j'ai remarqué dans les ateliers en question, c'est que les femmes adhéraient davantage et plus facilement. Je veux dire, les femmes non blanches, hein, j'entends. Et que très souvent, l'idée apparaissait tout à fait pertinente et opérationnelle, alors que les hommes ont tendance à résister davantage. Voilà. Myriam a une explication là-dessus, elle vous la livrera pour le débat. Alors, pour les personnes blanches, en revanche, donc ça va provoquer des réactions très diverses, qui vont aller de l'adhésion à la règle du jeu, avec l'envie vraiment de réfléchir à la question. Et puis, pour certaines personnes, ça a pu jouer comme une véritable révélation. Hein. Mais ça peut prendre aussi des formes beaucoup plus, on va dire, réticentes, voire même carrément des résistances. Donc, je vous donne juste quelques éléments sur ces résistances en particulier. Donc, première des résistances, au-delà du fait que l'idée de race, ça coince toujours. Hein, d'utiliser le mot race systématiquement, il y a une difficulté à le prononcer. Hein, déjà, à parler de race tout court, c'est compliqué. Donc, au-delà de ça, la résistance à penser ses propres privilèges. C'est-à-dire que très souvent dans les discussions, puisque la manière dont on mène les ateliers, hein, il y a des énoncés, voilà. Et puis ensuite, il y a des discussions évidemment autour de ces énoncés, de comment les personnes le ressentent, etc. Donc, dans les discussions, ce qui ressort, c'est la tendance à rebasculer très rapidement sur les victimes, que ce soit du sexisme, du racisme, etc. Hein. Donc, incapacité à penser sa position de privilégié. On se tourne donc naturellement vers les personnes dominées, avec ce que je vous disais tout à l'heure, cet aveuglement à la race et à la couleur. Et très souvent, dans les discussions auxquelles j'ai pu assister, le débat se place sur la question du nom, du lieu de résidence, de la nationalité, etc. Hein, qui, bien sûr, sont importants. Hein. Il ne s'agit pas de dire que ce n'est pas important dans les processus de discrimination, mais ça résonne quand même comme un refus d'accepter que certaines marques visibles jouent un rôle fondamental dans les processus de différenciation et de catégorisation de l'autre. L'autre caractéristique extrêmement importante, c'est le sentiment de culpabilité mêlé d'impuissance. Surtout quand on est dans une posture un petit peu militante, etc. Ce sentiment de culpabilité, malgré le fait qu'on prenne des précautions en disant qu'il ne s'agit pas de... Voilà, on n'est pas dans quelque chose de moral, mais bien dans une réflexion qui va au-delà de ça. Donc, ça se retrouve notamment, je le cite toujours parce que l'exemple, moi, m'avait beaucoup frappé. Donc, un homme blanc, tendance anarchiste, on va dire. Spontanément... avait rappelé des pages d'histoire où des personnes blanches s'étaient solidarisées avec des opprimés dits de couleur. Et il me citait par exemple les porteurs de valises pendant la guerre d'Algérie. Comme si réfléchir et comme si des énoncés sur les privilèges des personnes, de par leur simple formulation, ça venait annuler ou nier les actions, les pratiques militantes qui peuvent exister par ailleurs. Il ne s'agit pas du tout de ça. Hein. Les alliances et les pratiques sur le terrain, il en existe. Et il faut qu'elles continuent. Il faut réfléchir aux alliances, bien entendu. Voilà, mais cet exemple pour moi, il est emblématique du fait que on essaye à la fois de prouver son antiracisme, très bien, et de montrer qu'il n'existe pas de supériorité morale chez les opprimés. Supériorité morale que aucun opprimé ne revendique, bien entendu. Mais voilà, il y a une construction là. Et puis l'autre phénomène qui est évidemment très très important et massif dans les discussions, c'est le fait de relater des cas où les personnes se sont senties elles-mêmes opprimées. C'est très souvent la classe qui est citée. Voilà. Et encore une fois, je peux comprendre à quel point une personne blanche pauvre peut avoir du mal à se considérer comme étant privilégiée. C'est pour ça que le terme de privilège, voilà, on a à réfléchir là-dessus, parce qu'il n'est peut-être pas voilà, très opérationnel de ce point de vue. Mais en tout cas, ces moments-là, voilà, ils caractérisent le fait que on va réintroduire d'autres oppressions et que ça nous exonérerait, hein, ça nous délesterait de nos privilèges blancs. Et encore une fois, non, réfléchissons à comment tout ça s'articule, et on peut prendre un temps pour réfléchir uniquement aux privilèges blancs et ensuite réfléchir aux articulations, etc. Hein. En tout cas, ces ateliers de conscientisation, c'est à ça que, pour moi, ils doivent servir. Voilà. Donc, et surtout, oui, voilà, dernière chose que je voulais dire avant de conclure, c'est qu'il existe, enfin, c'est que la manière dont j'utilise cette idée de privilège et la manière dont il faut la penser, c'est que ce sont des privilèges non discrétionnaires. C'est-à-dire qu'il pourrait exister des privilèges ou des avantages discrétionnaires dans le sens où je vais choisir de les utiliser ou pas. Les privilèges, le privilège social tel que je le décris et tel que je l'utilise, c'est un privilège non discrétionnaire, c'est-à-dire que ce sont des avantages qui sont octroyés aux personnes des groupes majoritaires sans avoir à le décider, qui sont octroyés de fait de par ma seule appartenance au groupe majoritaire ou dominant. Puisque, bien entendu, vous le savez bien, on ne peut pas traverser des frontières aussi aisément. Si j'ai la peau noire, j'ai la peau noire. Hein. Ça va être difficile de passer de l'un à l'autre. Et donc difficile, du coup, de se soustraire à l'oppression raciale. Alors, juste donc, en conclusion, que faire avec tout ça, justement pour ne pas rester dans cette impuissance qui apparaît très très souvent. Donc, premier point qui me paraît important, c'est donc reconnaître la dimension invisible des privilèges, puisque les silences, les tabous, les dénis, les dénégations de toutes sortes qui entourent ces privilèges sont les instruments politiques essentiels de leur reproduction. Et selon moi, si on ne fait pas ce travail-là, toutes les réflexions sur l'égalité, elles resteront forcément partielles. Donc, deuxièmement, passer de la position de déni ou de culpabilité à une attitude à la fois de reconnaissance, mais aussi de responsabilisation, dans le sens où ne pas décider, ben, c'est aussi une position. Hein. Et puis, troisièmement, c'est revendiquer la... Enfin, moi-même, je ne le fais pas assez, donc c'est une recommandation que je me fais d'abord à moi-même. Mais en tout cas, utiliser des chiffres dans la mesure du possible, ou enfin, en tout cas, des éléments qui rendent visibles à la fois, bien sûr, les inégalités, les discriminations, c'est absolument indispensable et nécessaire, mais aussi les privilèges. Hein ? Tout simplement, plutôt que de dire que les femmes sont payées 25% de moins que les hommes, il faut arriver à dire que les hommes bénéficient des dividendes de la masculinité et qu'ils sont payés 25% de plus que les femmes. Et là, on rend visible le privilège. C'est aussi bête que ça, sauf qu'on n'y pense jamais. Et bien entendu, idem pour les inégalités racistes. Hein, plutôt que de dire que les jeunes femmes dites issues de l'immigration ont 2,5 fois plus de chances d'être au chômage que les Françaises dites de souche, ben mettons en évidence que, ou plutôt que les hommes, pardon, français de souche, c'est par, le 2,5 c'est par rapport à eux, mettons en évidence que ces derniers, donc, hommes blancs, bénéficient des discriminations racistes à l'embauche. Vous voyez bien qu'on change la perspective, on change sa manière de penser les choses et on visibilise tous ceux qu'on, voilà, qu'on nous force et qu'on nous habitue à considérer comme étant quelque chose d'invisible. Voilà, et juste... l'ouverture du débat. En tout cas, la grande question à laquelle il faut arriver à se poser et à poser dans tous les espaces dans lesquels on est, me semble-t-il, c'est de se dire à tout moment combien d'hommes sont bouleversés par les avantages systémiques liés à leur sexe, combien d'hétérosexuels et hétérosexuels ont conscience de l'hétéronormativité qui irrigue l'ensemble de notre société, combien de blancs et de blanches le sont par les bénéfices secondaires liés au racisme. Si on arrive à réfléchir un tout petit peu là-dessus, il me semble que dans les luttes, on aura fait un tout petit pas. Merci beaucoup.